ce matin dans la métropole est à 1,58 $ pour un litre d'ordinaire. Pour des produits frais et de qualité à donner, c'est votre destination jusqu'au 7 mai. Le beefsteak de côte de bœuf est 9,99 $ la livre. Vous écoutez le 98.5.
Besoin d'une chirurgie de prothèse de hanche ou de genou? Obtenez maintenant une consultation en orthopédie à votre clinique Lacroix Médecine Privée de Laval. Aucune référence requise. cliniquelacroix.com.
Le jeudi 8 mai, c'est le grand McDo. Tout achat chez McDo vient en aide aux enfants malades et à leurs familles.
Fait que si je commande un Big Mac, j'aide les enfants.
Oui, un Big Mac, c'est bon.
Un chausson?
C'est bon.
Un McFlurry?
Bon aussi.
Une petite frite?
Bon.
Quart de livre?
Bon.
McWrap?
Bon.
McPoulet?
Non.
Ah! Oh.
Ben non, un McPoulet, c'est bon.
Ah!
Le jeudi 8 mai, c'est bon de donner lors du Grand McDo. Joignez-vous à nous.
C'est bon!
Une partie de la vente de nourriture et de boissons permettra de soutenir les filiales de l'OMRM et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants du Canada.
Payworks est né de la vision d'un entrepreneur il y a 25 ans. Aujourd'hui, Payworks est le plus important fournisseur de services de paye et de gestion de personnel de propriété canadienne. Vous le verrez donc sur un bulletin de paye, dans un immeuble à bureau ou encore sur un site web. Vous trouverez aussi Payworks partout au pays où des gens œuvrent à faire une différence en parrainant des événements communautaires, en appuyant nos voisins. Chez Payworks, on ne fait pas que des affaires au Canada, c'est aussi chez nous. Pour nous connaître davantage, visitez payworks.ca.
Les journées de travail peuvent être imprévisibles, mais vos vêtements de travail ne devraient pas l'être. Avec un programme de vêtements de Cintas, vous recevrez chaque semaine des vêtements fraîchement lavés pour toute votre équipe. Cintas propose des vêtements pour presque tous les métiers, avec des tissus performants et une coupe sans compromis qui suivent vos mouvements. Ne laissez pas au hasard votre style et votre confort. Visitez cintas.ca/fr et soyez prêts pour la journée de travail.
Fatigué de voir votre patio s'effriter aussi vite que votre enthousiasme du lundi matin? Ne vous découragez plus. Balcon Verdun transforme votre espace depuis plus de 35 ans avec des produits sans entretien. Spécialiste des balcons en fibre de verre et des rampes en aluminium, Balcon Verdun installe des matériaux aussi robustes que votre café quotidien. Pour une estimation gratuite, visitez balconverdun.com. Avec Balcon Verdun, redonnez vie à vos espaces extérieurs et à votre motivation.
Mal dormi? Ça vous prend un bon matelas. Profitez de la vente anniversaire Matelas Dauphin et offrez-vous un matelas de qualité exceptionnelle fabriqué au Québec plus taxes payées. MatelasDauphin.com.
À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir. Toujours bien informé. Bien informé. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin.
There are some places that are never for sale.
That's true.
It's not for sale, won't be for sale, ever.
Never say never.
J'ai dit, c'est pas utile de répéter cette idée.
Voici Patrick L'Agacé.
6h02, nous sommes mercredi le 7 mai. Merci d'être avec nous. Ensoleillé ce matin à Montréal, ça va être généralement nuageux. 30% de probabilité d'averse, maximum 20. Et présentement, 15 degrés. Assez chaud ce soir, cette nuit, quelques averses, minimum de 8 degrés. Demain, jeudi, nuageux, maximum de 12. Aperçu pour vendredi, encore une fois, même chose, nuageux, maximum de 12 degrés. Je commence avec cette visite de Mark Carney, le nouveau premier ministre, hier à la Maison-Blanche. J'ai regardé ça en direct. C'est un exercice fascinant. Parce que, bon, d'abord, on le sait, M. Trump est imprévisible. Et les enjeux étaient élevés pour Mark Carney. C'est notre partenaire le plus important, les États-Unis. On peut penser ce qu'on veut de Donald Trump. Pas une bonne idée de l'antagoniser. Donc, M. Carney est allé là-bas. Je l'ai trouvé calme, mais ferme. C'était une sorte de grand écart qu'il faisait. Parce que il avait deux auditoires, dans le fond, aux antipodes. D'une part, les Canadiens, qui sont tannés de se faire niaiser par le président américain. Et M. Carney a promis d'être ferme, de faire un reset de cette relation avec les Américains. Et l'autre côté du grand écart, ben, il y a le président lui-même qui est à côté de M. Carney, qui est caractériel et qu'il faut ménager. faut le flatter dans le bon sens du poil sans avoir l'air têteux. Et à ce sujet-là, bonne chronique à lire dans le journal La Presse de Paul Journet sur le grand écart et les deux auditoires à satisfaire de M. Carney. À la une du journal de Montréal, il y a des chroniqueurs qui donnent une note sur 10 à notre premier ministre, la plus basse, 8,5. Écoutez, on vit pas dans un film. Moi aussi, j'aurais aimé ça que Mark Carney dise ses quatre vérités à Donald Trump, qui fasse comme... je sais pas si vous avez vu le film Love Actually. C'est un film de Noël qui repasse souvent autour de Noël. Et le premier ministre britannique est fâché contre le président américain. Il y a plusieurs histoires dans le film, là. Et il lui dit ses quatre vérités devant les médias du monde. C'est un film. J'aurais aimé ça que Mark Carney fasse ça. Mon cerveau reptilien aurait été content. Sauf que on peut difficilement gagner une chicane publique avec Donald Trump et ne pas en payer le prix. Si Trump avait pris Carney en grippe, un décret par-ci, un décret par-là, c'est des milliers de Canadiens qui auraient pu en souffrir. Donc, c'est pas un exercice facile. Je pense qu'il l'a réussi. Ce qui est très clair, c'est que Trump détestait Justin Trudeau. Il l'a encore critiqué hier. Il s'en est encore moqué. L'a comparé à Carney en termes très peu flatteurs. Et je note aussi autre chose. Fred va en parler tantôt, mais le compte Instagram de la Maison-Blanche, qui, je vous le dis, là, est souvent un freak show, hier ressemblait au compte Instagram d'une Maison-Blanche présidentielle normale. On a fait un compte-rendu de la visite de M. Carney en termes élogieux. Le montage était fait avec respect, avec le sérieux, dans le fond, qu'on a en droit de s'attendre d'une institution comme la Maison-Blanche. Donc ça, c'est la forme. Sur le fond, par contre... il n'y a rien qui change, parce que M. Trump l'a dit, il n'y a rien de ce que peut dire Mark Carney aujourd'hui, donc hier, il n'y a rien de ce que le PM canadien aurait pu faire qui allait faire tomber les tarifs qui nous sont encore imposés. Il a aussi poursuivi, là, sur un autre ton, mais encore une fois, c'est niaiserie sur le 51e État, et M. Carney a eu une réplique savoureuse. On va l'écouter.
As you know from real estate, there are some places that are never for sale.
That's true.
We're sitting in one right now, you know, Buckingham Palace, that you visited as well.
That's true.
Having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership and what we can build together.
Il y avait pensé, notre nouveau premier ministre, il a dit, écoutez, M. Trump, vous le savez, vous avez un passé d'immobilier. Il y a des endroits qui sont juste jamais à vendre. Et pour m'être promené en campagne électorale et avoir parlé aux propriétaires du Canada, les citoyens, ils n'en veulent pas. Ça ne va jamais arriver. Mais bon, les opportunités sont dans le partenariat. M. Trump a dit, il ne faut jamais dire jamais. Mais il n'y avait pas le même ton hargneux, agressif. Peut-être le début d'un dégel des relations. On verra si la relation qui est cordiale entre M. Carney et M. Trump va pouvoir dénouer des impasses. Le ministre fédéral Dominique Leblanc, qui était hier à la Maison-Blanche, on l'a vu assis dans un des divans, n'a pas pris la parole, va être avec nous un peu plus tard à l'émission vers 8 heures. Je souligne aussi qu'il y a des négociations qui vont commencer entre la Chine et les États-Unis à propos de leur relation commerciale demain. Ça va se passer, ça va commencer tout ça en Suisse. Il est présentement dans un autre dossier. Il est 6h07 ici. Il est midi 7 minutes au Vatican. Et les images qui nous proviennent de Rome, là, c'est le début du conclave. Ils sont spectaculaires. Beaucoup de pompe, c'est absolument protocolaire, c'est beau à voir. Que vous soyez catholique ou pas, les images sont absolument spectaculaires. Les cardinaux du monde entier qui sont réunis à Rome et qui vont commencer à délibérer pour choisir un nouveau pape, on va aller immédiatement parler là-bas, sur place, en direct, avec Bernard Bédarida et les journalistes indépendants présentement au Vatican. Bernard, bonjour.
Bonjour, Patrick.
Commençons avec un peu de pédagogie. Un conclave, c'est quoi?
Alors, vous savez, Patrick, aujourd'hui, c'est un grand jour. Donc, c'est le jour J pour les 1,4 milliard catholiques du monde entier. Une journée fondamentale pour la ville, pour l'Italie, pour tout le monde. Un conclave, qu'est-ce que c'est qu'un conclave? C'est une réunion de cardinaux à huis clos dans la chapelle Sixtine, où tous ces cardinaux, ils sont au nombre de 133, ils proviennent de 71 pays du monde entier, se réunissent. Et quatre fois par jour, ils élisent un pape. Bon, aujourd'hui, c'est le premier jour. Il y a eu une grand-messe ce matin à 10h, heure de Rome, à la basilique Saint-Pierre, la dite messe pro eligendo pontifex, qui est pour les cardinaux un moment de recueillement particulier où ils souhaitent être inspirés, la contemplation, la méditation, de manière à pouvoir élire ce pape. Donc il y a eu cette messe, elle vient de se terminer, vous avez dit qu'elle était très spectaculaire et très très belle, les cardinaux en robe rouge avec leur calotte, etc. Et dans l'après-midi, à partir de 16h30, 16h15, heure de Rome, après un repas que l'on suppose léger, ils vont entamer une procession vers la chapelle Sixtine, depuis la chapelle Pauline, vers la chapelle Sixtine, en chantant ce que l'on appelle la litanie des saints. C'est-à-dire qu'ils invoquent tous les saints, il y a très certainement Saint Patrick auquel ils demandent le bon conseil, tous les saints du monde catholique, et ils les invoquent de manière à ce qu'ils prient pour eux et qu'ils leur donnent, comment dire, le bon choix pour choisir le bon pape. Alors, je vous disais, aujourd'hui, il y aura un seul vote qui sera aux alentours de 19h, heure de Rome, avec cette fumée qui sera très probablement noire, puisque ça n'est jamais arrivé qu'ils élisent un pape le premier jour. Dans les jours qui viennent, quatre scrutins à 10h de Rome, 10h30, midi, 16h et 19h. Donc quatre élections. Autour, je veux dire, qui se matérialiseront par ces fumées que la ville de Rome apercevra. Il y a des écrans géants un petit peu partout autour du Vatican qui donnent un plan extrêmement serré sur la cheminée de la chapelle Sixtine. Et au bout de ces votations, de ces votes, eh bien, on aura ou on n'aura pas le pape.
Vous avez dit, Bernard, 4 votes par jour. Il y en aura un aujourd'hui. Ils sont séquestrés, les cardinaux. C'est-à-dire qu'ils sont séquestrés à la chapelle et ensuite, quand ils vont à leur lieu de résidence, ne doivent pas avoir de contact avec le monde extérieur. À quel point c'est étanche?
Donc, tout le Vatican a été, comment dire, schermato. C'est-à-dire, on a brouillé toutes les communications, téléphone portable, radio, etc. Tout est brouillé. On a séquestré, le mot est fort, on a demandé aux cardinaux de se priver, et ils le font bien entendu très spontanément, de leur téléphone portable, de leur tablette, de tout ce qui peut les raccorder au monde extérieur. Quand ils dorment à la résidence Sainte-Marthe depuis hier soir, dans des chambres qui ont été tirées au sort pour éviter les injustices, dans le passage le matin et le soir de la résidence Sainte-Marthe à la chapelle Sixtine, il y a évidemment des forces de police, disons toute une sécurité, pour éviter qu'ils communiquent, qu'ils passent une information. Ça n'est pas tout à fait dans l'air du temps, c'est peut-être pas l'intention des cardinaux, mais enfin, on fait de tout pour éviter que cela se passe, et cela ne se passe quasiment jamais.
Bernard, il doit y avoir beaucoup de touristes là, qui sont massés là, aux abords du Vatican à Place Saint-Pierre.
Mais oui, je peux vous dire que c'est un événement qui passionne, aussi bien parce que c'est, contrairement à l'enterrement qui était un moment, bien sûr, spirituellement très triste, très mélancolique, là c'est un grand moment, un grand moment de joie. Et les touristes, les catholiques, etc., qui sont là. Je vous disais qu'il y a des écrans géants partout qui vous donnent la possibilité de vivre en direct aussi bien ce qui va se passer, la marche vers le conclave là, qui précédera le fameux extra omnes, c'est-à-dire tout le monde dehors, que les fumées. Et donc, tous les gens sont là, massés, ils savent, ils connaissent l'heure des rendez-vous. Et puis, la fumée est noire. Oh, la fumée est blanche. Ah, donc il faut s'attendre vraiment à des belles réactions. Et je peux vous dire que c'est très, même pour nous qui sommes des journalistes, qui avons du recul, qui devons décrire, c'est quand même un moment extrêmement émouvant.
On va se reparler très bientôt. Merci pour cette description très vivante de ce qui se passe au Vatican, Bernard. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Bernard Bédarida, qui est journaliste indépendant présentement au Vatican. Bon, de l'Église catholique, on va passer à une institution québécoise qui fait prononcer beaucoup de mots d'Église, et je parle du REM. Le REM, hier, on le sait, là, qui a encore subi de longues minutes d'arrêt. L'histoire se répète. Donc, d'une part, il y a des bris d'équipement, il y a des retards, toujours des problèmes avec les navettes. L'ironie hier, c'est que c'était la fin des navettes qui sont censées aider les gens à se rendre à destination quand le REM cesse de fonctionner. Premier jour de fin de navette, premier jour où le bris revient nous hanter. Donc, les bris, c'est une chose, OK? Mais les délais, avant d'avertir les usagers d'un arrêt de service, c'est autre chose. Et ça aussi, c'est le jour de la marmotte dans le film d'horreur du REM. C'est pas si compliqué d'avertir les gens. Et hier, je voyais des informations circuler qui disaient, bon, mais écoutez, entre le moment où ça a été annoncé et le moment où le REM est reparti, c'est écoulé 5 minutes. Non, c'est pas écoulé 5 minutes. On est plus de l'ordre de une demi-heure. entre le moment où le REM a cessé et où l'avertissement a été fait aux usagers, ça a pris environ une demi-heure. Pourquoi? Dans un monde technologique, là, on pourrait avertir les gens par courriel, par texto, mettre les communications aussi sur les plateformes du REM. Ce n'est pas fait. Ça a été demandé à de multiples reprises, mieux communiquer. C'est pas super compliqué. On penserait qu'une organisation milliardaire comme la Caisse de dépôt, comme le REM, trouverait des façons de communiquer avec les usagers. C'est un manque de respect que je trouve...